Hong Kong à la Méditerranée, des femmes laotiennes dans le sud-est de la France. Deuxième volet, soupe de macaroni au nampaa. Demandez d'où il vient à un Laotien de France, il vous répondra facilement qu'il est asiatique. Ce qui inclut en gros les nationalités chinoises, thaïlandaises, khmères, vietnamiennes et laotiennes. Or, le Laos à lui seul est riche de plus de 70 ethnies, ayant chacune ses coutumes, ses croyances, ses costumes, sa langue. Gommer leurs différences ethniques leur permet souvent de rendre leur identité plus lisible au regard des Français. Ainsi, une femme qui avait tenu avec son mari un restaurant de spécialité de l'ethnie majoritaire laotienne, dite Laoloum, dans les environs de Marseille, me disait l'avoir appelé « restaurant chinois, délice d'Asie ». C'est un peu comme si vous ouvriez à New York un restaurant de spécialité basque et que vous l'appeliez « restaurant allemand, délice d'Europe ». L'anecdote suivante montre qu'elle n'avait pas forcément tort. Une femme française à qui je parlais du Laos me demanda au bout d'un quart d'heure de discussion « Mais c'est dans quelle partie de l'Afrique, au juste ?»
Je t'ai parlé, elle va te parler avec l'accent du Nord. Non, mais justement, je
suis. Comment en général,
tu
viens de saigner
qu'est-ce que je suis
là, madame. Mais c'est Anita, Tiens,
c'est Marine.
Tiens, c'est Marine.
J'ai amené quelques...
Madame Nin et sa fille Gisèle.
Bouteille de Nurmam avec moi.
Du
nampaa en laotien. Et ça a duré un mois ou deux, puis ça, après on a des difficultés à trouver. Il n'y en a pas d'ailleurs à Saint-Raphaël. Il faut aller jusqu'à Marseille pour trouver. À Marseille, il y a des marchands de provisions asiatiques, des produits asiatiques. C'est là qu'on a trouvé du nampaa. Quand ça a commencé, là, on trouve quelques ingrédients asiatiques qu'on peut s'accumuler quand même un petit peu à s'adapter, à reprendre le goût du laotien, mais une fois par semaine.
Alors la soupe, la première fois, quand maman nous l'a faite, il n'y avait pas de pâte de riz, bien sûr, et il n'y avait aucun ingrédient, à part le fait qu'on ait découvert qu'il y avait des cubes qui s'appelaient à l'époque, même si on n'a pas le droit de dire des marques, des cubes or, c'est ça, qui doit toujours exister d'ailleurs, et... Maman faisait un potage avec ça, les cubes or. Elle mettait de l'oignon dedans pour donner du goût. Elle nous a même mis, je crois, si je ne me trompe pas, un os à moelle. Et avec un peu de viande, d'une espèce de pot-au-feu qu'elle a laissé mijoter pendant des heures. Et après, une fois que tout était près, l'odeur ressemblait énormément, évidemment, le goût également, mais les pâtes n'étaient pas ce qu'il fallait. On a pris des gros macaronis, je m'en souviens, on les a fait cuire, mais bon, le mélange au goût n'était pas mauvais du tout, en dehors du goût des pâtes. Mais ça a été un vrai bonheur, parce que ça faisait combien de temps ? Plusieurs mois qu'on était là, et la nourriture nous manquait. Et maman nous a fait pour la première fois cette nourriture qui nous rappelait un petit peu notre Asie. Et en attendant d'aller, de retrouver plus tard, bien plus tard, des épiceries qui se montaient avec les ingrédients qu'on commençait à trouver. Mais beaucoup plus tard, quand même. Ça, je pense, plusieurs années, on va dire.
On dit toujours que pour toutes les migrations, l'alimentation est le dernier bastion.
Catherine Chorombé, anthropologue.
Qui se maintient, mais que les gens ont vraiment besoin de retrouver des saveurs, etc., pour se sentir à peu près bien, quoi, eux-mêmes. Et donc, c'est vrai que à la fin des années 70, il n'y avait pas encore beaucoup d'infrastructures, quoi. Il y avait, à Paris par exemple, il y avait le quartier Maubert Mutualité où il y avait des alimentations vietnamiennes qui dataient d'une migration précédente, hein, bien antérieure, donc une vieille immigration vietnamienne, mais qui s'adressait plutôt à des Vietnamiens et à quelques Français éclairés qui connaissaient, mais ça n'a pas du tout drainé cette population consécutive à l'exode de 75. Et donc, en fait, c'est vrai que ils avaient des difficultés, ils cherchaient des produits de remplacement, bon, ils avaient des difficultés. Mais très vite aussi, donc, il y a eu grandes surfaces asiatiques, dont le fameux Tang Frère, qui étaient justement des Chinois du Laos, qui donc avaient déjà, eux, une tradition commerciale, mais ils sont arrivés à la même époque qu'eux, et ils ont très très vite remonté des commerces dans le 13e. Et donc, du coup, ça a permis aussi à ces populations-là de s'approvisionner. Et donc, très, très vite, ils ont trouvé à peu près tout ce qu'il fallait, hein, tout ce qu'il leur fallait, de produits en produits frais, en produits de base, le riz qui au Laos est un peu particulier puisque c'est du riz gluant. Bon, et tout ça, ils pouvaient l'acheter. Et maintenant, Tang Frère a essaimé. Maintenant, il y a des succursales à peu près partout sur le territoire français. Donc, en fait, ils ont résolu ça assez vite. Mais il y a quand même eu une phase où certaines recettes, disons, fondamentales de la cuisine Lao, qui ont été adaptées. Bon, par exemple, la fameuse salade de papaye, qui est un grand classique de la cuisine, de la gastronomie populaire laotienne. Pas seulement populaire, d'ailleurs. Bon, il n'y avait pas de papaye. Et les femmes faisaient ces salades avec des carottes râpées, par exemple. Hein, et... Donc, il y a eu comme ça une adaptation aussi assez rapide. Et puis, les techniques culinaires ont changé aussi. L'utilisation des paniers, par exemple, pour cuire le riz, bon, a été très vite remplacée par le couscoussier ou par des bricolages avec des égouttoirs qu'on mettait au-dessus d'une casserole, etc. Bon, il y a eu une adaptation très rapide et efficace. Hein.
Repas chez Anita, près d'Aix-en-Provence, avec Tadam et leur conjoint à toutes les deux.
Non, là, il n'y a rien de laotien. Hein,
oui, c'est ce que je regarde. Mais ça aussi, c'est intéressant pour moi, tu vois.
Non, mais nous, on est vraiment une mauvaise référence.
Ce qui est laotien, peut-être, c'est quand même le fait de cuisiner dehors.
Ah oui, c'est un truc
qu'on voit pas beaucoup. C'est bon, il y a une herbe.
C'est ça, il y a une noix de coco. Coco. En fait, j'ai pris une recette.
De la citronnelle ou quelque chose
de... Il n'y a pas de citronnelle. Quelque chose c'est une de... recette de Madagascar, ça. Non. En fait, je voulais
faire... On n'aurait rien dit.
Non, ben, ça, c'est pas là aussi, hein, tu le vois bien.
Ouais, parce qu'il y a des... Ça pourrait être taille.
Non, c'est une recette, j'ai trouvé sympa, parce que ça ressemble... Au départ, je voulais faire crapoun kali, là.
Ah si, c'est de la crapoun.
C'est là, le crapoun, là. Je voulais faire ça, et après, bon, ça a décliné comme ça, quoi. Ça, c'est mon gros problème, quand je
mange. Ici, on est toujours très international.
Ta sœur, elle disait, quand elle parle de toi, des fois, elle disait la française, c'est ça?
Oui.
Ça, c'est, ils n'avaient pas
plaisir. Parce que ça change, notre démarche change déjà.
Ah oui, puis il y a eu...
La manière de parler, ça change. Même si on parle laotien ou laos, on sait qu'on n'est pas des gens du pays, quoi, depuis longtemps.
Non, puis il y a aussi une... Il y a aussi une volonté...
Dans la mesure où tu as évolué à l'étranger, donc tu prends quand même une façon d'être ici. Alors que quand tu retournes là-bas au Laos, on le voit tout de suite, il voit tout de suite que tu es étranger. Mm-hmm. Que tu viennes de France ou des États-Unis ou d'ailleurs, on n'a pas la même attitude.
Même au niveau du langage.
Même la démarche, ils marchent plus vite.
Il n'y a pas que d'absence.
Voilà.
If you go to Laos, you are a stranger.
Et la démarche,
dans la rue, on voit la façon dont marchent les gens.
Ah oui, ils le voient, de toute façon.
Ils le voient tout de suite.
Et même nous, on n'a pas la même attitude qu'eux.
Non.
Aussi. Yeah. C'est presque façon de... C'est l'évolution, chacun évolue différemment, quoi.
Les difficultés, c'est de mettre, avoir une maison où on peut loger tout le monde.
Madame Nine, de Saint-Raphaël et sa fille Gisèle.
Pour avoir une maison assez grande et surtout les loger, les mettre tout en rang, les biens qui s'adaptent bien à leur nouvelle vie. Parce qu'au Laos, nous avons des personnes qui les aident familiaux. On a deux ou trois personnes pour aider à s'occuper des enfants, pour les habiller, pour l'entretien derrière la maison aussi, pour les accompagner à l'école. Alors qu'en France, on n'a pas de tout ça. J'étais toute seule. Heureusement que l'école n'est pas loin. C'est la grande sœur qui donne un coup de main pour les amener à l'école.
J'ai accompagné mes frères à l'école, comme au Laos actuellement, vous savez, en mobylette avec deux derrière, un devant. Je l'ai fait. J'avais 13 ans, je l'ai fait. Ça, je me souviens de ça.
Au Laos.
Ah, oui, quand je suis arrivée ici, papa avait acheté une mobylette et je me rappelle que j'avais mis mes frères, mes sœurs. Enfin, je faisais plusieurs voyages et puis je suis partie comme ça. Comme au Laos.
Il y a des gens, effectivement, qui étaient...
Catherine Chorombé.
Qui sont encore politiquement très opposés au régime actuel, donc qui ont pris la nationalité française, qui pensent que, de toute façon, ils ne veulent pas collaborer avec ce régime et, de toute façon, s'ils rentraient, ils seraient encore menacés. Donc ceux-là, ils ont pris la nationalité française sans état d'âme, c'est pas aussi simple, mais en tout cas, bon, en étant très déterminés, et S'ils retournent au Laos, ils y retournent comme touristes et sans avoir l'intention de s'y réinstaller. D'autant que les enfants poussent quand même à rester ici quand ils sont très francisés, quoi. Et puis, il y a des gens qui, en fait, qui étaient plutôt, je dirais, des migrants économiques et qui étaient moins motivés sur le plan politique, qui sont peu politisés. Les Laos, dans l'ensemble, sont peu politisés, sauf les gens qui avaient du pouvoir, quoi. Mais la moyenne des Laos n'est pas très intéressée par la politique. Donc, ceux-là, ils raisonnent plus en termes d'opportunités économiques. Et donc, s'il y a une possibilité de retourner au Laos avec un capital qu'ils ont quand même acquis ici, à la fois un capital économique et un capital social et de connaissances et de compétences, etc. S'il y a une possibilité de rentrer là-bas pour faire fortune, ils ne sont pas contre, quoi. Il y a donc quand même un certain nombre de ces réfugiés qui se sont réinstallés là-bas. Mais je pense pas que ce soit les plus nombreux. Et je pense que, en fait, le schéma le plus courant qu'on trouve quand même, c'est des gens qui sont dans l'aller-retour. C'est-à-dire que, comme de toute façon, ils n'ont pas la nationalité là-haut et qu'ils devraient la prendre s'ils voulaient vraiment se réinstaller là-bas et renoncer à la française, c'est un peu difficile et un peu lourd. Donc, en fait, ils font des allers-retours, ils restent ici, en France, ils investissent là-bas et ils... avec des systèmes de prête-nom, c'est-à-dire qu'en fait, ils investissent en prêtant de l'argent, ou enfin, et donc, ils investissent au nom d'un parent qui est resté sur place, et ils font la navette, quoi.
Parce qu'eux-mêmes n'ont pas le droit d'investir en leur propre nom.
Pour l'instant, encore au Laos, actuellement, un étranger ne peut pas monter une entreprise. Il faut qu'il crée ce qu'on appelle une joint venture, c'est-à-dire qu'ils soient associés à un local, là-haut local. Donc, ils ne peuvent pas. Et d'ailleurs, bon, je pense que ça s'arrange un peu maintenant, mais il doit y avoir encore pas mal de cas. Il y a eu des réfugiés qui se sont fait spolier par leur famille parce qu'ils sont rentrés là-bas, bon, pour un premier voyage, deuxième voyage, etc. Ils ont investi de l'argent... avec un prête-nom, c'est-à-dire ils ont créé une entreprise sous le nom d'un cousin ou d'un frère, etc. Et puis le cousin ou le frère en question à un moment donné a dit « Mais bon, moi je ne travaille pas avec toi » et ils ont tout perdu. Ils ne peuvent rien revendiquer, quoi.
Là, c'est une double perte parce qu'ils perdent l'argent qu'ils ont investi, ouais. Ils perdent aussi... leur famille, finalement.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Il y a un engagement affectif aussi. Si vous prenez un prête-nom, c'est que vous avez confiance en cette personne.
Ah, oui, bien sûr. Non, mais il y a eu des situations très, très douloureuses.
Quand tu retournes au Laos, moi, du moins, je n'arrive pas à retrouver mes Macs.
Anita, ta dame et son mari.
Tu te dis, bon, c'est comme ça. Tu as toujours l'image de la... les dernières images de ce que tu as vécu et tu penses les retrouver. Et arriver, du coup, c'est très dur parce que tu te sens vraiment composé là et tout a changé autour de toi. Et toi, au fond, on croit qu'on est la même. Mais en fait, c'est ce soi-même qui a changé aussi. Voilà. Et c'est très dur.
Ça a changé de façon très rapide. Mais nous aussi, on a changé.
Oui, mais simplement dans notre mental, dans notre esprit, on voudrait retrouver ce qu'on a quitté il y a longtemps. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, ce qu'on ne veut pas admettre, c'est que même eux, ils ont quand même évolué, ils ont changé aussi.
Ils ont changé.
Parce qu'ils ont changé sans nous, et nous, on n'a pas suivi le même chemin. Mmh. Donc, on ne comprend pas, on n'arrive pas à voir en quoi, comment et pourquoi ils ont changé. Quoi. Alors que c'est normal, hein, c'est la vie qui change, c'est les choses qui changent aussi.
Oui, c'est qu'aussi pour eux, ça s'est passé dans beaucoup de temps, tandis que pour vous, c'est un choc.
C'est un choc.
Voilà. Vous appréhendez tout ça d'un seul coup.
Oui, mais on a perdu tous les repères qu'on avait, les connaissances qu'on avait. On connaissait tout le monde dans la ville.
Tout le monde nous connaissait aussi. Ouais.
Les gens de l'Oprabant, ils sont partis à Vientiane. Les gens de Vientiane, en gros, ils sont partis à l'étranger. Mmh. Et donc, on ne reconnaît plus personne. Mmh. Et puis même, il y en a qui ne veulent pas te reconnaître, parce que tu es un étranger maintenant.
Non, mais même si on peut retourner et vivre là, moi je serais partant, mais je doute que ce serait un succès parce que c'est trop changé. Et puis, il faut se faire une place et on n'a pas notre place là-bas, on n'a plus notre place. Même s'il y a la famille, tout ça, mais non, on est considéré.
C'est pas la même, c'est pas la même famille comme à l'époque. Parce que vraiment, à l'époque, c'est famille, famille, comme les Italiens, comme famille, famille. Mais là, il n'y a plus ça. C'est trop superficiel.
Tu ne peux pas partir, revenir. Là, ce n'est pas possible de refaire ta vie.
Les là. Même ceux qui restent, ils ont beaucoup de mal à se réadapter. Regarde ta sœur.
Quelle sœur
Non.
Ah oui, en France.
Non, au Laos actuellement. Oui. Elle n'est pas considérée comme laotienne, c'est considérée comme une étrangère.
Non, pas du tout. Mais il faut y vivre, il faut aller là, et puis tout, il faut des années
Tout est redevenu laotienne. Elle est partie il y a 25 ans.
En
80, donc elle est partie il y a 20 ans. Elle s'est mariée à laotienne là-bas. Ouais. Elle est redevenue laotienne, mais elle ne nous reconnaît plus comme laotien.
Ah oui.
Nous, on n'est plus laotien pour elle.
Oui, surtout moi.
Ceux qui sont restés, en général, se sont attribués tous les biens de la famille. Et c'est pour ça qu'il y a un mouvement pour refuser que ceux qui sont partis à l'étranger récupèrent leurs droits. Ça permet aussi au gouvernement de cristalliser autour d'eux la population. Et ça va dans le sens de la cohésion. De ceux qui sont restés.
Il y a un moment donné, une de mes sœurs m'a dit, bon, en ce moment, tout le monde part. On voudrait 1000 dollars pour acheter une villa. Ben, on a envoyé, parce que je pense que d'ici 20 ans, que...
Oui.
Mais ils n'ont pas acheté, malheureusement. Oui. J'ai envoyé en 75 l'argent pour acheter... Parce qu'en ce moment-là, la maison ne coûte pas cher du tout. Une belle villa, 500 dollars. Oh oui, j'ai envoyé pour que mes parents achètent à cette époque-là, en 75, parce que tout le monde part. Et puis ils n'ont pas acheté. Parce que je sais que ça va être comme ça.
Ils n'avaient pas mangé peut-être aussi.
C'était Soupe de macaroni au Nampa, deuxième volet de la série documentaire en 6 épisodes du Mékong à la Méditerranée, des femmes laotiennes dans le sud-est de la France. Un projet de Marine Richard, soutenu par le dispositif Identité, Parcours et Mémoire. Mixage et astuces sonores, Sébastien Gély et Tony Regnault. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.grenouille888.org.